Et j'accueille maintenant notre invité de dernière minute. Et il s'agit de Sylvain Vagnon, chercheur au LIRDEF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation.
Bonjour
Sylvain.
Bonjour et bonne année. Comprendre l'homme.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui du prochain rendez-vous des
mercredis. Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
La conférence de la charte des animée avec Corinne Martel
la aura pour thème
l'école dans et avec la nature. Allume alors qu'est-ce qu'on entend par là pour commencer?
On entend par là en réalité tout ce qui est possible hors de la classe.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et en cette rentrée de janvier, nous vous souhaitons une très bonne année 2025. Peut-être faites-vous partie de la grande majorité de Français à avoir placé en tête de leurs bonnes résolutions le sport.
D'essayer de comprendre
une map pour les salles de fitness qui enregistre généralement à cette période une hausse spectaculaire des inscriptions, comme l'avait souligné le patron du groupe Keep Cool dans Les Échos, annonçant une augmentation de 60% des inscriptions de aujourd'hui.
Années, mais qu'en
alors si comme moi vous ne faites pas partie de ces motivés de la première heure, déculpabilisez. La moitié d'entre eux ne fréquenteront plus la salle dans un mois et seulement 20% prolongera son effort jusqu'en octobre. Quelques-uns deviendront peut-être de véritables athlètes au point de vouloir se mesurer à l'épreuve reine, le marathon.
Et oui, j'ai pensé, dès le départ, j'ai pensé moi aussi au
post-Covid, mais en fait c'est pas du tout nouveau cette question de l'école de la nature. Le plus connu d'entre eux étant l'Ironman.
Oui, c'est ça, et c'est ce qu'on voudrait essayer
kilomètres de vélo avant de se finir tranquille en marathon sur 42 km de course à pied. Une folie créée en 1978 à Hawaï dans un pays qui a aussi inventé le menu Big Mac super size. États-Unis, terre de contraste et de démesure. Alors avant de m'accuser d'une mauvaise foi manifeste uniquement motivée par ma paresse, je vous propose de vous intéresser à l'étude que nos invités ont menée sur les éventuelles conséquences de ces efforts physiques herculéens sur le fonctionnement cardiaque. De précédentes études ont en effet déjà révélé que ce type d'exercice pouvait altérer momentanément les capacités cardiaques et pulmonaires des athlètes.
Développer encore
mais
mieux
nos chers, ces chercheurs, nos invités, ont émis l'hypothèse d'une association en cas, entre dysfonctionnement pulmonaire
alors, cette,
et
cette question, vous l'avez développée, vous, dans un ouvrage qui s'appelle L'école dans et avec la nature, dont vous êtes co-auteur avec Corinne Martel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Corinne Martel?
Alors,
oui, alors
vous êtes cardiologue au CHU Montpellier, Christophe Hedon, c'est bien ça?
Oui, moi, Christophe Hedon, je suis cardiologue au CHU de Montpellier, physiologiste de l'exercice, et je m'occupe de tout ce qui a trait à l'activité physique et aux maladies cardiaques d'une manière générale.
Et donc, tous les deux,
Olivier Cazor, là, donc, vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Chimie
d'Axe. Je suis physiologiste et je m'intéresse aux plages cardiopulmonaires.
Merci. Alors, son triathlon à elle se compose de nage dans les flots bleus de Palavas, de course pour l'apéro et d'une descente de sprint que vous n'aimeriez pas remonter en vélo. À mes côtés pour donner cette interview, l'Iron Woman Aline Perry.
Bonjour.
Je me suis mis un défi pour la première fois. Et enfin, notre invité de dernière minute sera Sylvain Vagnon, chercheur au LIRDEF, et il nous présente la prochaine conférence de mercredi des savoirs sur le thème de l'école dans et avec la nature. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
De mieux se connaître et de mieux connaître aussi leur environnement.
Chargement de manche terminé.
Uniquement au professeur.
Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58,
elle est ouverte d'ailleurs.
On vient de le dire en introduction, l'exercice intense et prolongé peut provoquer des dysfonctionnements pulmonaires et cardiaques. On va en parler pendant les 20 prochaines minutes. Mais il peut également provoquer donc des stress métaboliques et musculaires. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, Christophe?
On peut penser aux parents, mais on peut penser aussi.
Oui, bien, merci pour l'invitation. Et en effet, donc l'exercice physique. Alors, je tiens à rassurer déjà la grande majorité des auditeurs est bien reconnu comme étant bénéfique sur le système cardiovasculaire, en tout cas sur le long terme. Mais c'est vrai qu'à l'occasion d'une activité physique notamment intense, l'école, Ironman ou ultramarathon, ça engendre un stress musculaire important pour pouvoir réaliser ce type d'épreuve.
Alors vous l'avez dit, c'est en entrée libre, c'est également en visioconférence avec un lien qu'on mettra dans la page de l'émission. Et donc c'est le 22 janvier entre 17h et 18h à la faculté d'éducation.
Et on peut voir dans certaines situations des adaptations.
Un grand merci à vous Sylvain Vagnon et on vous reçoit à nouveau bientôt dans l'émission quand vous voulez.
De manière transitoire. Merci beaucoup.
À bientôt.
De ce type d'épreuve.
Alors, votre étude, elle porte sur 60 triathlètes masculins. Alors, première question, il y a aussi des triathlètes féminines. Pourquoi n'avoir choisi que des hommes dans cette étude?
Oui, tout à fait. Alors, c'est surtout pour des raisons assez pratico-pratiques. En fait, on a fait toute une batterie d'examens médicaux donc, chez ces athlètes. Et donc, c'est vrai que pour faire des évaluations cardiaques précises, on a besoin notamment de faire des échographies cardiaques qui nécessitent d'être dénudées. Et donc, dans les conditions pratiques de réalisation des examens, on était sous des tentes à l'arrivée de la course, Donc pour des questions de pudeur, c'est déjà un premier élément de réponse. Et puis quand on regarde la proportion d'hommes et de femmes qui réalisent ce type d'Ironman, il y a quand même une large proportion masculine avant tout. Et donc il y a à peu près 1200 inscrits par an sur l'épreuve de l'Ironman, hein, donc l'épreuve d'ultra-triathlon qu'on a étudié. Et sur les 1200, en fait, la gente féminine est représentée pour moins de 100 des participants. Et donc on n'aurait certainement pas eu un échantillon de volontaires suffisant chez les femmes pour pouvoir vraiment faire un sous-groupe significatif. Et donc on a voulu se concentrer uniquement sur la gente masculine.
Alors justement, l'échantillon, vous avez sélectionné à la base 72 athlètes et au final, votre étude ne porte que sur 60 triathlètes. Qu'est-ce qui leur est arrivé aux 12 dont on n'a pas les résultats ?
Alors je vous rassure tout de suite, ils vont bien. Donc en effet, on en a vu 72 avant la course pour toute une batterie d'examens, pour avoir un peu une caractérisation avant la course de leur fonction cardiaque et pulmonaire. Et à l'arrivée de la course, on en a perdu quelques-uns. Alors en effet, parce qu'il y en a qui ne sont pas revenus nous voir, tout simplement, peut-être par manque de motivation. Ils ont préféré profiter de leur famille, etc. Néanmoins, la grande majorité sont revenus et on a exclu des analyses finales un certain nombre. Par exemple, parce qu'il y avait des échographies cardiaques qui n'étaient pas de qualité suffisante pour permettre une analyse fiable de nos résultats, ou alors une évaluation qui n'était pas assez exhaustive. Par exemple, il y en a qui ont eu que les résultats échographie cardiaque et pas de la fonction respiratoire. Et donc, comme on voulait faire une idée du couplage à la fois cardiaque et pulmonaire, on avait besoin de l'ensemble de ces examens. Donc, certains athlètes ont dû être retirés des analyses.
Et il y en a un aussi qui est carrément pas parti. Le stress de la course, hein, c'est pas une course non plus à Dodine. Et donc, il y en a un qui n'est pas parti le matin et qu'on avait exploré juste avant.
De stress,
ouais. C'est
Je le comprends tellement.
Ouais. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on les a vus, moi, c'est ce qui m'a choqué dans ce type d'expérience, c'est que en fait, l'exercice est tellement intense qu'en fait, ils sont parfois hagards, ils sont dans un état second. Et je pense que ceux qu'on a perdus, c'est parce qu'ils se sont perdus eux-mêmes et qu'ils ne savaient plus où est-ce qu'ils étaient. Et certains, pendant quelques heures, en fait, on les voyait, ils étaient hagards et ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient.
Et alors, une dernière précision sur ces athlètes. L'âge médian, vous le dites dans votre étude, c'est 39 ans. Ça semble presque un peu âgé pour des athlètes. C'est propre au triathlon, cette moyenne d'âge, ou pas spécialement ?
Peut-être pas propre au triathlon, mais peut-être propre plutôt à ces longues distances, que ce soit les ultramarathons ou les ultra-triathlons. En effet, c'est plutôt souvent des défis un peu du trentenaire ou du quarantenaire. Donc, c'est un échantillon assez représentatif, finalement, des inscrits d'une manière générale. Il faut savoir qu'on a mis aussi une barrière d'âge à 55 ans, puisqu'on voulait vraiment se concentrer sur les effets de la course et on ne voulait pas, comme facteur qui pouvait interférer éventuellement, des problèmes d'anomalies coronaires avec une prévalence qui augmentait avec l'âge. Donc on a mis volontairement aussi une barrière à 55 ans. On aurait peut-être pu avoir des sujets même un peu plus âgés encore que 39 ans.
Donc on est sur de l'ultra-marathon, je répète, donc c'est de l'ultra-triathlon, pardon, un triathlon très longue distance, 3,8 km de natation, 188 km à vélo, un marathon de 42 km. Pourquoi avoir choisi un effort aussi extrême ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire par exemple sur un simple marathon ?
Oui, c'est une excellente question. En effet, les phénomènes de fatigue cardiaque ou de dysfonction respiratoire, elles ont déjà été décrites dans la littérature sur des courses de type marathon ou ultra-marathon, même sur des distances même inférieures, même sur un semi-marathon également. Néanmoins, quand on fait un petit peu la revue de la littérature, c'est vrai que l'ultra-triathlon est le bon compromis à la fois en termes d'intensité et de durée. C'est-à-dire que plus la durée d'une épreuve est longue, souvent on a une intensité qui est moins importante pour pouvoir accomplir ce type d'effort. Mais finalement, ce type d'ultra-triathlon est le bon compromis en termes d'intensité et de durée, donc c'est des épreuves de très longue durée, mais également qui restent avec une intensité modérée élevée tout le long. Il y a trois efforts différents, donc avec des mécanismes musculaires qui vont être différents engendrés par les trois types d'épreuves, et donc finalement une sollicitation qui va rester intense pendant de très longues durées, donc c'est le bon compromis.
L'ultra-triathlon, c'est vraiment le top du top de la fatigue cardiaque, à opposer par exemple par rapport aux ultra-trails, qui finalement sont à des intensités qui sont plus faibles, parfois plus longue durée, mais par contre des intensités qui sont plus faibles. Et là, les études montrent qu'on n'a pas forcément de dysfonction cardiaque, au contraire, on peut avoir des effets bénéfiques. La notion de durée et d'intensité est très importante dans ce genre de problématique, parce que Bien sûr, on a des athlètes super entraînés ici, mais vous pouvez avoir tout à fait, avec un marathon ou avec un semi-marathon, des altérations qui sont identiques si vous n'êtes pas suffisamment préparé à ce genre d'exercice.
Alors, vous avez émis l'hypothèse que les athlètes qui présentent des troubles pulmonaires présenteraient également des troubles cardiaques, avec notamment une diminution de la fonction myocardique. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qui relie le système cardiaque et le système pulmonaire, Christophe Hédon ?
Oui, vous savez que le poumon et le cœur partagent un espace confiné, un intra-thoracique, donc un espace commun, premièrement, et donc ils sont soumis à des variations de pression qui sont communes et interdépendantes. Et puis, ces deux fonctions partagent également un système vasculaire commun avec la vascularisation pulmonaire qui partage une vascularisation commune entre le cœur et le poumon.
Justement, cette altération entre cette association entre les altérations des fonctions cardiaques et pulmonaires, qui sont pourtant évidentes, elle avait jamais été étudiée jusque-là ?
Oui, alors ça a été étudié, mais dans des situations pathologiques, hein, comme par exemple dans la bronchite chronique obstructive, hein, la BPCO, certaines pathologies cardiaques, comme l'insuffisance cardiaque également. Mais sur les modèles physiopathologiques de l'exercice physique intense, la relation entre les deux n'a jamais été faite. Il était connu qu'il y avait des altérations pulmonaires liées à l'exercice intense et prolongé, des altérations cardiaques, qu'on appelle la fatigue cardiaque induite par l'exercice, mais une interrelation entre les deux n'avait jamais été démontrée.
Après, souvent, il y a une notion de discipline aussi, c'est qu'il y a des cardiologues et puis il y a des pneumologues et on ne se parle pas forcément entre les deux organes. Et donc, c'est pour ça aussi que beaucoup d'études sont séparées. Là, l'objectif, c'était de les rassembler.
Donc, tous les participants sont prêtés à un contrôle médical avant la course et évidemment après la course. Alors, combien de temps après la course est-ce que vous les avez examinés ? Christophe Hédon.
Oui, alors déjà avant la course, en fait, on les a vus au retrait des dossards. Hein, donc les sujets n'avaient pas encore fait l'effort. Au retrait des dossards, donc c'était les 3 jours qui précédaient la course. On a fait toute une batterie d'examens en amont de la course pour avoir vraiment une caractérisation de leur fonction cardiaque et pulmonaire avant la course. Et puis à l'arrivée, donc on les laissait souffler en général au moins une trentaine de minutes. Mais très rapidement, on essayait de les rapatrier sous notre tente d'évaluation médicale. Et donc on a pu évaluer nos athlètes 50 minutes environ après l'arrivée de la course pour les échographies cardiaques et encore 20 minutes supplémentaires pour l'évaluation respiratoire parce que les choses étaient faites de manière séquentielle.
Olivier Cazorla.
L'objectif, c'était d'examiner en fait des modifications qui durent dans le temps et qui ne sont pas influencées par des fonctions physiologiques. On sait que lorsqu'on fait un exercice, eh bien, on sollicite le système adrénergique et donc beaucoup des paramètres fonctionnels respiratoires et cardiaques qui sont analysés sont modifiés par ce système adrénergique lorsque vous devez faire un exercice. Et donc il fallait qu'on soit en dehors de cette fenêtre pour être sûr que les modifications qu'on voyait n'étaient pas dues en fait au fait que lorsqu'on fait un exercice, eh bien, on a le système adrénaline qui est augmenté.
Alors justement, est-ce qu'on sait, ça avait déjà été montré dans plein d'études, que ce type d'effort pouvait diminuer la fonction cardiaque, mais est-ce qu'on sait pendant combien de temps ces troubles ils vont se manifester après l'effort ? Vous parlez de fenêtre, c'est quoi ? C'est quelques heures ? C'est quelques jours ? Ça peut être quelques semaines ?
Oui, alors ça, notre papier n'y répond pas, parce qu'on n'a pas fait d'évaluation répétée dans le temps après l'arrivée de la course. Néanmoins, c'est vrai que la littérature nous a démontré que cette fatigue cardiaque, elle était transitoire, hein, donc on récupère une fonction normale. Alors en combien de temps, ça dépend des papiers, mais en général, il faut retenir que de 24 à 72 heures, tous les paramètres cardiaques sont normalisés.
Alors d'autres études avaient identifié également, donc on l'a dit, des modifications pulmonaires majeures induites par l'exercice. Donc vous l'avez vérifié également à cette occasion, 3 troubles. Donc vous avez observé 3 troubles, puisque dans votre échantillon, après la course, 18% des athlètes ont présenté une bronchoconstriction, 58% une hyperinflation dynamique, 40% une altération de la capacité de diffusion de la membrane alvéolo-capillaire. Je dis ça comme si je savais ce que c'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement un peu?
Oui, donc c'est ces 3 troubles donc pulmonaires et ventilatoires qui intéressent différents étages hein, finalement du poumon. En premier lieu, la bronchoconstriction induite par l'exercice. Alors on appelle ça dans le langage commun l'asthme d'effort, même si la physiopathologie est différente de celle de l'asthme. En fait, c'est les bronches qui ont une réduction du calibre et qui fait que on a plus de mal à expirer l'air et complètement l'air du fait de la réduction de ce calibre. Ça peut me faire siffler les gens, hein, comme on peut voir dans l'asthme par exemple. Donc ça s'apparente à de l'asthme. Ensuite, en deuxième lieu...
Hyperinflation dynamique.
Ouais, l'hyperinflation dynamique, alors c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais c'est souvent lié aussi, c'est souvent associé à la bronchoconstriction, en fait, du fait que le calibre des bronches est plus réduit, notamment au niveau des petites bronches, et bien en fait, on emprisonne de l'air dans les poumons et nos alvéoles sont un peu plus gonflées. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut mesurer en faisant des explorations fonctionnelles respiratoires. On voit que le sujet respire à plus haut volume, comme si un ballon de baudruche était un peu plus gonflé, finalement. Et ça aussi, ça peut avoir des répercussions parfois sur la fonction cardiaque.
Et le dernier, mon préféré, du coup, altération de la capacité de diffusion de la membrane alvéolo-capillaire.
Voilà, alors en effet, vous savez que les poumons, ça sert à transférer de l'oxygène, de l'air ambiant à nos capillaires pulmonaires, à notre espace sanguin. Et donc pour ça, il faut que l'oxygène arrive à diffuser entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire. Et donc ce transit entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire peut être mesuré en mesurant donc les capacités de diffusion. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi sur le terrain en faisant des mesures de la diffusion pour les gaz et de mesurer comment l'oxygène arrive à diffuser au niveau de cette membrane alvéolo-capillaire.
Et tous ces paramètres-là, est-ce que vous avez une idée aussi, comme pour la fonction cardiaque, du temps qu'ils mettent à revenir à la normale ?
Alors, encore une fois, ça, on ne l'a pas étudié spécifiquement dans notre papier, mais vous pouvez retenir à peu près de la même façon que pour le cœur, qu'en 24-72 heures, tout est normalisé également.
Mais ça veut dire que si on répète ce type d'épreuve, est-ce qu'il y a un risque, si tous les ans on fait un Ironman, est-ce qu'à long terme il y a quand même des risques qui sont associés au niveau cardio-pulmonaire ?
Alors ça c'est en effet un petit peu le débat scientifique autour de ça est lancé déjà depuis quelques années. C'est vrai que moi en tant que cardiologue clinicien qui voit donc des sportifs, parfois on observe des maladies cardiovasculaires, notamment des dilatations du cœur qui sont très prononcées, notamment au niveau du ventricule droit, alors qu'il n'y a pas intrinsèquement de maladie cardiaque sous-jacente. Et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas finalement l'excès d'activité physique, de l'activité sportive, la répétition de ce type d'épreuve, avec ce concept qui n'est pas encore démontré, mais que finalement le fait de faire des fatigues cardiaques de manière répétée, avec des périodes de récupération finalement qui sont insuffisantes, est-ce qu'on n'engendrerait pas des conséquences sur le long terme qui deviendraient néfastes ? Néanmoins, ça reste très conceptuel, c'est pas encore démontré dans la littérature. On a affaire à quelques athlètes probablement prédisposés et qu'on ne sait pas encore reconnaître au jour d'aujourd'hui qui engendraient ce type de maladaptation.
En tout cas, ça ne réduit pas l'espérance de vie des athlètes qui font ce type d'effort. Il y a quelques études qui ont montré quand même que notamment des analyses post-mortem qui ont montré des altérations, enfin, ou en tout cas des restructurations cardiaques avec de la fibrose cardiaque chez ce type d'athlète. Ce qui est important, c'est la notion de récupération aussi après ce genre d'exercice intense.
Alors si on revient à l'association donc, cardiaque pulmonaire, on n'en est pas parti d'ailleurs, mais vous observez donc sur cet échantillon une réduction de la capacité de diffusion de la membrane alvéo-capillaire dont vous nous avez parlé. Donc elle est associée à une diminution de la fonction systolique du ventricule gauche. Alors encore une fois, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire, Christophe Hédon ?
Voilà, donc en effet, c'est vrai que c'est la première étude qui fait vraiment l'étude conjointe des dysfonctions cardiaques et respiratoires. Et donc le principal résultat de cette étude, c'est que les gens qui avaient une altération de la diffusion de l'oxygène au niveau de la membrane alvéolo-capillaire sont également ceux qui avaient une altération de la fonction cardiaque. Alors comment on peut relier les deux ? En fait, l'altération de la diffusion, elle peut être expliquée par un œdème pulmonaire d'exercice. Donc ça, c'est une conséquence, en effet, de l'exercice physique intense. On a une extravasation d'eau qui s'opère au niveau du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire entre les alvéoles et le capillaire pulmonaire. Il y a un peu d'eau dans le poumon, qui fait que l'oxygène a plus de mal à diffuser. Enfin, les gaz, d'une manière générale, ont plus de mal à diffuser. Et donc, ça peut être relié à la problématique cardiaque, dans la mesure où si vous avez un cœur qui est un peu moins performant, qui pompe un peu moins bien, les pressions de remplissage sont augmentées dans le cœur est soumis à des pressions plus élevées, et bien qui fait que ça fait sortir l'eau des capillaires pulmonaires et donc les gaz qui ont plus de mal à diffuser.
Et ça, donc c'est une première, y compris, vous ne l'aviez pas observé chez le modèle animal, Olivier Cazorla.
On ne l'avait pas étudié, en tout cas la partie pulmonaire. On avait en fait, sur le modèle animal, observé des dommages, puisque des dommages structuraux, et notamment pour le ventricule gauche, on avait observé des problèmes d'hypoxie parce que le poumon, ça sert à oxygéner. Donc si ça diffuse moins, lorsqu'on fait l'exercice, on a moins d'oxygène pour l'organisme. Ça, on avait vu ça du côté du ventricule gauche. Et de l'autre côté, on avait vu que le ventricule droit était montré des signes d'étirement excessif. Et donc, ça, c'est au niveau du retour veineux. Un ventricule droit qui est trop étiré, certainement durant l'exercice. Notre étude n'a pas pu montrer ce genre d'exploration au moment de l'exercice, mais très certainement, ces athlètes ont des problématiques d'hypoxie durant l'effort et de surcharge de pression qui va affecter donc la fonction de contraction qui est la fonction systolique.
Alors par contre, ni la bronchoconstriction ni l'hyperinflation dynamique n'ont été associés à des changements de la fonction cardiaque dans votre étude, mais vous dites quand même que si on avait réalisé les examens cardiaques plus tôt, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça aurait pu changer, Christophe Hédon ?
Oui, parce qu'en effet, on a une prévalence finalement assez faible de ces phénomènes de bronchoconstriction, notamment 18% quand on regarde par rapport à la littérature. C'est vrai qu'on retrouve des chiffres en général supérieurs quand les évaluations sont faites plus précocement après l'arrivée de la course. Nos explorations fonctionnelles respiratoires ont été réalisées plus d'une heure après l'arrivée. Et donc peut-être que s'il y avait plus de bronchoconstriction avec une amplitude d'effet sur les réductions du calibre des bronches plus importante, peut-être que là, on aurait eu aussi des répercussions sur la fonction cardiaque, comme on peut voir par exemple chez les gens qui ont une bronchite chronique, la BPCO, qui peuvent altérer notamment le remplissage cardiaque. Et donc là, on aurait peut-être pu avoir une association entre les deux également, mais je n'ai pas la réponse.
Olivier Après, ça veut dire que ce sont des paramètres qui récupèrent beaucoup plus rapidement et qui ne sont donc pas directement responsables de la dysfonction cardiaque que l'on voit. Ce qui était un petit peu l'objectif, savoir quelle est la relation de cause à effet entre une dysfonction pulmonaire et une dysfonction cardiaque. Si on récupère cette fonction et qu'on a quand même une dysfonction cardiaque, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux et que l'un n'est pas responsable de l'autre.
Alors, très rapidement pour la dernière question, parce qu'on arrive à la fin, vous dites-vous en conclusion que les mécanismes exacts restent insaisissables. Est-ce que vous envisageriez de mieux explorer ces mécanismes et pourquoi pas d'espérer mieux comprendre certaines pathologies cardio-pulmonaires avec ces travaux ?
Oui, tout à fait. Donc là, on est sur des travaux chez l'homme, donc on reste surtout descriptif. On voit des altérations cardiaques, on voit des altérations pulmonaires, on fait une relation statistique entre les deux. Maintenant, les mécanismes sous-jacents précis sont difficiles à évaluer. Tout l'intérêt de faire ce genre d'études en collaboration avec nos collègues chercheurs fondamentaux, donc comme Olivier. Et donc, c'est vrai qu'on a envie d'explorer aussi sur des études plus spécifiques chez l'animal, qui nous permet chez l'animal de faire des études ex vivo, également des études biochimiques et cellulaires pour comprendre mieux les mécanismes. Et donc ça appelle éventuellement à des travaux plus spécifiques sur des modèles animaux pour pouvoir mieux comprendre ces mécanismes.
Un mot pour finir, Olivier Scazzorla, pardon.
oui, il faut la complémentarité entre l'approche chez l'homme et puis l'approche chez l'animal. Et on peut très certainement envisager d'autres des voies de signalisation, en tout cas expliquer les altérations.
Un grand merci à vous deux, Christophe Hédon et Olivier Cazorla. Je n'écroche pas votre nom cette fois-ci.
Merci.
Merci.
Et j'accueille maintenant notre invité de dernière minute. Et il s'agit de Sylvain Vagnon, chercheur au LIRDEF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et bonne année.
Merci.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui du prochain rendez-vous des Mercredis du Savoir organisé par la Faculté d'Éducation. Donc, ça se tiendra le 22 janvier entre 17h et 18h30 à la Faculté d'Éducation. La conférence que vous co-animez avec Corinne Martel aura pour thème l'école dans et avec la nature. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là pour commencer ?
On entend par là, en vérité, tout ce qui est possible hors de la classe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est finalement une espèce de vaste question, parce que depuis le Covid, évidemment, et la fin du confinement, il y a cette soif de sortir, et de sortir pour tous, et évidemment aussi de sortir des classes. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre l'organisation, l'idée de cette école à l'extérieur de la salle de classe, et puis d'essayer de montrer que c'est pas simplement une tendance de quelques années, mais qu'en réalité, c'est une tendance lourde de l'éducation aujourd'hui, d'essayer de travailler autrement et de travailler avec les élèves en profitant en tout cas de son environnement et notamment de l'environnement autour de la classe, c'est-à-dire dans la cour, mais aussi autour de l'école.
Et oui, j'ai pensé, dès le départ, j'ai pensé moi aussi au post-Covid, mais en fait, ce n'est pas du tout nouveau, cette question de l'école dans la nature.
Oui, c'est ça, et c'est ce qu'on voudrait essayer de mettre, l'idée de cette conférence. C'est une conférence, mais c'est aussi un échange qui est prévu avec le public sur cette question d'actualité, c'est de montrer en tout cas que l'école dehors, elle a une histoire très ancienne, hein, qui s'ancre en réalité dans des pratiques de l'école publique, et puis aussi qu'elle a évidemment cette actualité, parce qu'on voit qu'il y a un bouillonnement d'initiatives. Si on prend même l'exemple des jardins scolaires qui se développent extrêmement vite dans beaucoup d'écoles, mais il y a énormément d'autres initiatives, et puis essayer de voir un peu les perspectives pour justement développer encore mieux cette école dehors, et ça sera un petit peu un des enjeux en tout cas de cette conférence.
Alors cette question, vous l'avez développée, vous, dans un ouvrage qui s'appelle « L'école dans et avec la nature », dont vous êtes co-auteur avec Corinne Martel. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Corinne Martel ?
Oui, alors je travaille avec Corinne Martel, qui est inspectrice pour la circonscription de Montpellier Centre, qui connaît extrêmement bien, évidemment, le terrain, qui est une spécialiste de la question. Et donc, tous les deux, effectivement, on est complémentaires, parce qu'il y a à la fois cette idée, de mon côté, un peu en historien, d'essayer de mettre en perspective une question, de voir aussi des axes forts. Et puis, Corinne Martel voit évidemment aussi le côté très pratique. Alors, on ne fait pas un fait la théorie, l'autre la pratique, c'est pas du tout ça. C'est plutôt d'être complémentaires et de pouvoir dialoguer, en tout cas, tous les deux, sur cette question qui nous semble, en tout cas, une question importante pour à la fois penser notre école, mais aussi la transformer dans le sens qui nous semble en réalité favorable, c'est-à-dire avec des méthodes beaucoup plus actives et qui permettent aux enfants aussi de mieux se connaître et de mieux connaître aussi leur environnement.
Alors cette conférence, elle s'adresse à qui? Uniquement aux professeurs ou finalement à tous ceux que ça intéresse?
Elle est pour tout le monde en réalité, elle est ouverte d'ailleurs, hein, elle est gratuite. C'est l'idée de venir mieux connaître en tout cas, ce que peut être l'école dans et avec la nature. Bien sûr, les enseignants sont les bienvenus, c'est une évidence, mais toute personne qui s'intéresse en réalité à l'éducation, donc on peut penser aux parents, mais on peut penser aussi à tout un chacun, parce qu'on voit bien qu'en tant que citoyen, on comprend bien que les changements climatiques extrêmement forts, environnementaux, et on les voit bien tous les jours, hein, de plus en plus, impliquent en vérité une réflexion majeure sur l'école et l'écologie. Et donc l'école dehors, évidemment, participe pleinement à cette réflexion.
Alors, vous l'avez dit, c'est en entrée libre, c'est également en visioconférence avec un lien qu'on mettra dans la page de l'émission. Et donc, c'est le 22 janvier, entre 17h et 18h30 à la faculté d'éducation. C'est tout bon ?
C'est exactement ça.
Eh bien, un grand merci à vous, Sylvain Vagnon, et on vous reçoit à nouveau bientôt dans l'émission, quand vous voulez d'ailleurs.
Je l'espère, merci beaucoup.
À bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Robin Layou pour la réalisation de cette première émission de l'année 2025. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.